Nous sommes en compagnie de Monsieur Wang Nok. Vous êtes économiste au Parti Socialiste et vous avez participé aux conférences Alter Idées. Alors vous avez publié de nombreux livres, hein, dont il faut faire payer les riches, et un autre intitulé Vive l'impôt également. Alors ma première question c'est, il y a actuellement un débat au sein de la majorité sur la suppression de l'ISF. Quelle est votre position sur cette question ?
Ma position, c'est que c'est une nouvelle entorse au principe républicain de faire participer le citoyen selon sa faculté contributive à la solidarité nationale. Parce que la richesse d'un individu se définit non seulement par son revenu qui est un flux, mais elle se définit également par son patrimoine qui est un stock que vient alimenter tous les ans le revenu. Donc si vous ne taxez que les revenus, même avec un bon impôt progressif, vous ne le taxerez jamais complètement. Et d'ailleurs, par exemple, le taux d'imposition réel de Mme Bettencourt, c'est 9%. Donc ça veut dire que si vous ne taxez pas le patrimoine par l'ISF ou par un autre impôt sur le patrimoine, la rente se reconstitue et s'accumule indéfiniment jusqu'à faire de notre pays un pays de rentiers tel que ça a pu exister au XIXe siècle, avec une richesse concentrée de plus en plus entre les mains de quelques-uns. Je ne suis pas sûr que ce soit un projet très républicain, et je regrette que la droite aujourd'hui prenne ce créneau.
Mais alors comment régler le problème que l'ISF parfois ne touche pas véritablement les riches, qui eux vont mettre leur argent dans des paradis fiscaux, et touche des gens en fait qui sont pas des gros riches, mais qui ont par exemple un appartement dont le prix a été gonflé artificiellement par la spéculation.
Parce que l'ISF a une assiette trop étroite, qui n'inclut pas les biens professionnels. Et quand vous prenez le classement des 500 plus grandes fortunes de France que publie la revue Challenge tous les ans en juillet, elle prend comme assiette pour définir la richesse quelque chose qui inclut le bien personnel et les biens professionnels. Et on se rend compte que c'est extrêmement important si l'on veut taxer vraiment les milliardaires et non pas les millionnaires. Nous, ce que nous pourrions proposer au Parti Socialiste, c'est un véritable impôt sur le patrimoine qui remplace l'ISF, dont l'assiette inclurait les biens professionnels, avec un abattement pour ne pas taxer inutilement les PME, les commerçants, les artisans, et avec un gros abattement sur la résidence principale pour tenir compte de la flambée de l'immobilier. À propos de l'évasion fiscale, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, parce qu'on se rend compte que parmi les imposables à l'ISF, ceux qui partent tous les ans, ça ne représente pas plus de 0,14% des imposés à l'ISF. Et en termes de perte de recettes fiscales, c'est 0,63% des recettes d'ISF qui manquent tous les ans seulement. Donc on brandit souvent l'évasion fiscale comme une menace par rapport à toute tentative de réforme fiscale progressiste, mais en réalité, l'évasion fiscale, elle est pas si énorme, quoi. Et on tient pas compte du nombre de riches étrangers qui viennent s'installer en France parce que la France a de bonnes infrastructures, la France a une qualité de vie. Et quand vous regardez notamment le chiffre des investissements directs étrangers en France, la France est le deuxième pays d'accueil des investissements directs étrangers devant la Chine assez souvent selon les années, malgré notre impôt sur les sociétés qui est prétendu confiscatoire. Et ceci est dû au fait que nous ayons un bon système de formation, une sécurité sociale que les entreprises n'ont pas à payer de façon privative, et puis les infrastructures nécessaires au développement du commerce et de l'industrie.
Merci pour ces éclaircissements qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir. Et j'aimerais aussi parler aux députés que vous êtes. Vous avez dit lors de la conférence que vous étiez un fédéraliste convaincu. Alors j'aimerais vous demander, vous, quel avantage ce modèle permettrait d'obtenir, et comment est-ce que vous pensez que l'Europe peut atteindre ce modèle fédéral ?
Là, on est au milieu du gué, parce que la seule institution fédérale du suffrage universel, c'est le Parlement européen, qui a un peu plus de pouvoir dans le traité de Lisbonne pour quelques dossiers qui désormais sont votés en codécision avec le Conseil et la Commission. Malheureusement, le fédéralisme ne va pas assez loin. L'Europe aujourd'hui a un budget fédéral qui est très faible, 130 milliards, c'est rien du tout, ça te permet à peine de financer autre chose que la politique agricole commune. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale, on ne peut pas financer le budget par l'emprunt et par l'impôt, il n'y a pas de salaire minimum européen. Le pouvoir se décide essentiellement au Conseil, par le biais de décisions intergouvernementales, où, de fait, c'est le plus gros pays qui dispose du plus gros poids au Conseil, c'est-à-dire l'Allemagne, qui imprime sa marque de fabrique. Et malheureusement, pour changer la donne aujourd'hui en Europe, où les conservateurs et les libéraux sont majoritaires au Parlement européen, si on veut que l'Europe adopte autre chose que des politiques néolibérales que rejettent aujourd'hui ces peuples, les politiques qui nous ont menés là où nous sommes sur le plan économique et social, bien vraisemblablement, il faudra en passer par une victoire de la gauche en France et en Allemagne et par le fait que et la social-démocratie allemande et les socialistes français tapent du poing sur la table pour définir un certain nombre de règles, pour sortir des règles de fonctionnement néolibérales qui, aujourd'hui, ne permettent pas à l'Europe de sortir de la crise.
Mais alors, les pays de l'Union européenne ont des économies, des fiscalités et surtout des protections sociales très différentes. On a du mal à voir comment ces choses-là pourraient converger sans devoir renoncer à un certain nombre de nos acquis sociaux. Et entre-temps, on voit que même parmi les pays européens, il y a des concurrences très dures de la part de pays avec des mains-d'œuvre à bon marché. Et donc, ça provoque un flux de délocalisation et qui... Et ça nuit à notre industrie.
Pour que le projet fédéral tienne dans un contexte où on a fait la monnaie unique, il faut faire converger vers le haut les zones les plus en retard, puisque celles-ci ne peuvent plus s'ajuster en dévaluant leur taux de change lorsqu'elles sont déficitaires. Donc, il y a deux solutions. Il y a la voie libérale que propose Mme Merkel, qui est la baisse généralisée des salaires et la flexibilité de l'emploi, le tout sans intervention publique. Et puis il y a la voie que préconisent les sociodémocrates, qui est de faire converger par le jeu des fonds structurels et du budget communautaire les pays du Sud et les nouveaux entrants vers le niveau de développement des pays du Nord et de l'Ouest. C'est ce qu'on avait commencé à faire lors de la première vague d'adhésion à l'Europe. Ça avait très bien fonctionné avec les pays du Sud. C'est ce qu'il faut qu'on fasse maintenant avec les pays de l'Est. Le problème étant que nous n'avons pas le budget communautaire nécessaire et que le durcissement du pacte de stabilité que va imposer la Commission va priver les États nationaux des ressources nécessaires pour financer leur programme de convergence vers le haut. Dans ces conditions, l'harmonisation des normes sociales et fiscales restera un vœu pieux, parce que si vous voulez faire converger vers le haut les normes sociales et fiscales de tous les pays, ça veut dire que vous élevez leur niveau de productivité et vous élevez leur niveau de développement. Mais pour ça, soit on prie comme le font les libéraux pour que la baisse des salaires et la flexibilité des marchés fassent pousser des projets industriels comme des champignons, soit on y met les moyens et ça suppose qu'on crée une véritable politique industrielle à l'échelle européenne, qu'on permette à tous les pays de la pratiquer. Et pour ça, il faut revoir les textes qui interdisent les régimes, qui encadrent strictement les régimes d'aide d'État, et il faut un budget communautaire plus important.
Et pour revenir peut-être à des questions plus françaises, vous êtes socialiste, quel projet et quelle personnalité aimeriez-vous voir représenter la gauche en 2012 aux élections présidentielles ?
Écoutez, dans toutes les démocraties, le leader de l'opposition, c'est le leader de son principal parti. Là, malheureusement, on va s'adonner au cirque des primaires. Moi, j'étais pas favorable à ce cirque parce qu'il va donner un spectacle que les Français n'ont pas envie de voir, parce qu'on ne va pas parler du show, on va parler de marketing politique. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de travailler sur le fond. C'est la raison pour laquelle j'ai publié l'ouvrage sur la réforme fiscale qu'il me paraît nécessaire de conduire dès la première année l'année prochaine. Vous avez dans « Il faut faire payer les riches » tous les détails de la réforme fiscale que pourra appliquer la gauche. L'assiette de l'impôt sur le revenu fusionnée avec la CSG, son barème, l'impôt général sur le patrimoine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, après, le véritable enjeu, c'est de rediscuter avec la Commission de la politique budgétaire que l'on doit mener, parce que là où la Commission et le Conseil veulent nous imposer des politiques d'austérité sous peine de sanctions dans les directives qui vont être adoptées en juin dans le cadre du semestre européen, eh bien, nous devons refuser ces directives qui nous paraissent suicidaires sur le plan économique et social et rebattre les cartes. Et nous travaillons pour cela avec nos collègues allemands aujourd'hui, en espérant qu'ils gagnent eux-mêmes les élections quelques mois après, pour que le couple franco-allemand de gauche cette fois fasse mieux que le couple franco-allemand de droite.
Enfin, en écoutant votre conférence, on a quand même senti que si c'était Dominique Strauss-Kahn qui représentait le PS, ça vous arrangerait pas tellement. Vous avez bien une personnalité qui a votre préférence.
Bah, vous voyez que vous-même vous a donné au cirque électoral. Moi, je vous ai dit que la personne qui était légitime, c'est la première secrétaire du parti. Maintenant,
donc Martine Aubry.
Maintenant, si elle n'a pas envie d'y aller, fallait pas qu'elle postule au poste de premier secrétaire, quoi. On avait un autre candidat qui s'appelait Benoît Hamon qui a fait 25%, malheureusement. Ça sera pour le coup d'après.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup
de nous avoir accordé quelques minutes pour Transistor. Merci.